C'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein?
Hey! Faut passer la deuxième à un moment, sinon tu vas caler, mec.
Bonjour. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité, mais pas aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui, il est l'heure de passer au bilan de l'année tranquillement.
Calmement.
Voilà, hein, le cul en éventail, les doigts de pied en chou-fleur.
J'ai cru que t'allais dire en papillote, voilà. Je sais pas pourquoi.
À la fraîche, non mais tout calmement, en mode pépère, on va vous faire le bilan de l'année parce qu'on atteint la fin de 2021. Et c'est une année, ma foi...
Rocambolesque.
Il y a pas mal de twists, oui, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va vous proposer ce qui se fait la plupart du temps en fin d'année pour tous les fans de cinéma, c'est de vous proposer
une raclette,
entre autres, mais les tops et les flops de l'année, notamment autour de tout ce qu'on a fait, nous, comme film, pendant cette saison, fin de saison 2 et début de saison 3. Alors 2021, qu'est-ce que ça donne? Autour de moi sont là avec moi pas mal de gens, hein. Les gens qui ont fait le podcast un peu cette année, hein. Ils sont pas tous là, mais ils sont partis là. Johan, tu es là avec nous pour le bilan.
Oui, bonjour, je suis là.
Mais ça fait plaisir, hein. Calmement, le bilan. Johanna, salut Johanna.
Salut.
Qui est là aussi, Clément.
Yo.
Hola, que tal?
Oui, bien.
Clémence aussi est là.
Hello.
Salut Clémence. William.
Salut
William, ça va?
Ça va.
Kevin.
Bonjour.
Kevin, pas de titre aujourd'hui pour toi, Kevin. Désolé.
Prépare-toi, j'ai un titre pour mon
bilan. Renommé, fais ton bilan. C'est trop nul.
Et notre maître du jeu, Martin, qui est là aussi pour nous parler de son avis sur le cinéma cette année.
C'est toi.
C'est cinéma. Aujourd'hui, c'est ciné.
J'allais dire, c'est
oui,
toi,
bien
MJ.
Bonjour tout le monde. Pardon?
C'est toi, MJ.
MJ en personne.
Le maître du jeu. Alors oui, évidemment, voilà, pour résumer, on va se lancer dans nos tops pour refaire un peu l'année. Mais j'aimerais d'abord vous demander, alors, 2021, ça va ou pas? C'était comment? Comment vous avez vécu cette année?
Tu veux dire cinématographiquement?
Cinématographiquement, vie personnelle et respective.
Assieds-toi, William, sur ce niveau.
Ça va être long sinon.
Non, mais bon, ça a été encore une année, mine de rien, difficile, hein, pour les conditions que vous savez. Ça n'a pas toujours été simple pour nous d'aller au cinéma ou d'avoir un programme parce que forcément, maintenant, on dépend d'un certain virus. Hein, on ne va pas refaire l'histoire. Mais pour vous, comment vous l'avez senti cette année? Ouais, cinéma, podcast, qu'est-ce que vous avez envie de dire en pas longtemps, une petite phrase comme ça, Johanna, par exemple?
C'est que ça a été une année riche, donc forcément, comme beaucoup de films ont été décalés à 2021, je trouve qu'on a été richement servi niveau cinéma, notamment niveau film français, et ça fait plaisir.
Ouais. Moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de films qu'on aurait dû avoir en 2020 qui ont tous fait la queue du coup pour arriver en 2021. Donc il y a eu, vers la fin de l'année, je trouve, quand même une petite série de douilles, là.
Ouais. Ah ouais, c'est clair.
qui ont fait du mal, un peu. Ouais, bon, écoutez, on va essayer de vous dire un peu, nous, où est-ce qu'on se situe, hein, dans le paysage cinématographique, en revoyant un peu ce qu'on a fait depuis le début. Donc je vous ai demandé, autour de la table, de préparer votre meilleur top douille. C'est-à-dire les films qui vous ont le plus choqué, mais pas dans le bon sens, cette année. Donc un top 5 de douille et aussi un top pas douille, hein, le fameux top 5 des meilleurs films de l'année. À la suite de ça, grâce à notre compère El Calculator. Salut El Calculator.
Salut, je suis là aussi, tu m'as même pas mentionné.
Oui, El Calculator, voilà, non mais je te gardais pour la fin, le meilleur.
D'accord.
Pour la fin. Ça va, El Calculator, ton
ça
année?
Ça va, ça a été une bonne année car tu m'as installé des roulettes.
C'est vrai.
On en a pas mal entendu parler, hein, oui, de ces roulettes.
Je crois que c'est la mise à jour d'El Calculator.
Le gars, les mises à jour, rien à foutre, les roulettes.
Entre temps, El Calculator, tu nous as fait quand même un petit putsch, hein, un petit coup d'état.
J'ai essayé.
T'as essayé là.
Peut-il te le rappeler?
Mais j'ai Twitter.
Maintenant, t'as Twitter, ça te calme un peu. C'est vrai que tu nous avais fait voir des vertes et des pas mûres. Mais depuis qu'il a ses roulettes et Twitter...
Et en 2022, ça va péter.
Ah, oula,
ah, oh là là, ça recommence.
On croit qu'il rigole, mais je vous avoue que ça me fait peur, ce genre de choses. Non, El Calculator, du coup, tu vas nous aider à analyser tous ces tops.
D'accord.
Et à nous sortir le vrai top, Feta Béa, pour nos amis auditeurs, auditrices et tous les copains d'Internet, car évidemment, on a des films à classer. On va commencer avec le meilleur titre. J'avais envie de lancer le meilleur titre comme ça. Je vous avais demandé.
T'as la tête qui fait. Il biche comme un pou.
Moi, j'ai pas eu beaucoup de choix, quoi. Il fallait pas voter pour soi-même.
On a eu 43 épisodes pendant ces deux saisons, cette fin de saison 2 et ce début de saison 3. 43 épisodes en 2021. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas mal. On est loin des 52 épisodes normalement, vu qu'on est hebdomadaire. Et bon, entre temps.
Mais on est un peu plus hebdomadaire qu'avant.
Oui,
c'est vrai qu'on s'est arrangé là-dessus.
Il n'y a pas eu un mois et demi, deux mois, début d'année où on n'allait pas au ciné. Faut le dire.
Oui.
Ça a rouvert en avril, je crois.
Ouais, voilà. Oui. Donc l'année, elle a commencé un peu plus tard. Hein.
L'année, elle a commencé avec un fait en bilan numéro 1. Et du coup, on a un fait en bilan numéro 2. Fait en bilan 2021, donc 43 épisodes. Il y a quelques hors-série là-dedans. Mais plutôt content, hein, parce que 43 sur 52, c'est pas dégueulasse comme stat. Beaucoup de films vus, beaucoup de films appréciés, beaucoup de films détestés, beaucoup de films où on est resté mitigé. Et beaucoup de films qu'on a changé, où on a changé le titre, évidemment, pour que ça vienne coller sur nos affiches. Le meilleur titre, je vous ai juste demandé, comme ça, un petit tour de table, d'annoncer votre meilleur titre et pourquoi. Johan, quel titre tu retiens, toi, pour cette année ?
Eh bien, moi, c'était Monster Hunter Worst.
Qui était le...
Donc le titre de Barbix.
Oui, on a fait un live cette année quand même.
Ah oui, ça nous permet de remonter
les
signes.
Un peu flex, un peu merde.
Le titre de notre live, ouais. Notre premier live. Premier live, malheureusement, pas en physique. Hein. On a été obligé de le faire ça à distance, hein, à cause de ce virus à la con. Mais c'était quand même très, très cool. C'était une super expérience. Et c'est vrai qu'on a eu ce fameux titre Monster Hunter Worst. Je pense que c'était un très bon titre pour annoncer la merde qu'était Godzilla vs Kong. Johanna, ton meilleur titre pour cette année ?
Yaya l'abeille.
Yaya l'abeille ?
Ouais, petite affection pour ce titre.
Pourquoi Yaya l'abeille ?
Parce que ça me fait taper des barres à chaque fois que je le relis ou que je réécoute l'épisode.
Le titre de Candyman.
Oui, exactement. Donc,
Et maintenant, l'acteur, on l'appelle comme ça entre nous.
C'est vrai.
Oh, il y a Yaya l'abeille dans ce film.
C'est vrai, dans Matrix, je crois qu'on l'appelle Yaya l'abeille.
Ouais, oui.
Le fameux Yaya Abdul-Mateen. Mais c'est le titre de Kevin aussi.
Il y a Yaya l'abeille.
Non, c'était le tien, Romain. Oui, non, mais c'est pas mon titre, mais c'est mon titre préféré.
Ah oui.
Oui, moi aussi, c'est bah, parce que pareil, il me fait rire. C'est tout.
C'est vrai que
chercher plus loin.
Mais c'est pas notre meilleure affiche, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord. Pas terrible.
Mais oui, mais bon,
l'affiche de base était pas géniale.
T'as pas demandé qu'on fasse un top affiche.
Un top catchphrase.
Le titre que t'as retenu.
Moi, c'est Allen, le quatrième passager.
Oui.
Et ça me fait vraiment trop rire quand je le revois, celui-là. Et puis l'épisode était très drôle. C'est pas pour faire
notre
la
épisode
pub,
dans
mais...
l'espace. Ouais.
Ah, sur ce film, t'en avais proposé un qui était vraiment pas mal. Là, le De l'air, c'était assez cool. C'est juste une question.
Ah, titre L5.
De l'air. C'est juste une question de survie.
Et du coup, c'était Kevin qui l'avait proposé à Alan, non ?
Alan,
oui, c'est moi.
Ouais, bah. De toute façon, il y a une chance sur deux que ce soit Kevin.
Oui,
hein.
Même une chance sur une.
J'ai beaucoup gagné cette saison.
Le grand champion de la saison d'avant. Cette saison, t'es en train de gagner.
La saison d'avant, j'étais plus équilibré. Hein.
Ah, ouais, tu montres que c'est le patron. Clément, un titre.
Oui,
titre.
Moi, c'était Les Malheurs du Saphisme pour Benedetta. Je restais très fin. Je sais plus qui l'avait proposé.
Romain.
Ouais. Il est content.
Ça allait bien avec le film, quoi. Donc, ça m'avait fait pas mal rire.
Un bon gros film de merde. Un très bon titre pour un bon film de merde. On aura l'occasion d'en reparler parce que
il va
pointer le bout de son nez. Le Benedetta.
Il nous a marqué cette année.
C'est vrai que c'était un épisode. C'était quand même une des plus grosses douilles qu'on a pris de l'année. Hein. Un épisode où on était tous hypés par la BR. On est revenu. On était mine déconfite en mode plus jamais Verhoeven.
On s'est mis à brûler des croix dans la rue, quoi. On était là.
Martin, je t'avais demandé aussi, même si t'es arrivé en cours de route, je t'avais demandé pour toi quel était le meilleur titre.
Alors je suis arrivé en cours de route, mais je voyais passer chaque semaine tous vos titres qui étaient à chaque fois très cool et j'ai eu du mal à choisir, mais finalement j'ai choisi Born to be Alive.
Oui, ouais,
simple, oui. Efficace, et puis le fond et la forme. Donc
c'était le premier titre des abonnés, ça, en plus.
C'était le titre des abonnés, ouais.
Titre des abonnés.
C'est Philippe.
Philippe, si tu
c'est
nous
bien
écoutes.
Philippe,
viens ici un peu que je te
mette. Philippe,
salaud.
Tag.
Born to be Alive. Ça, c'est l'aspect musical, peut-être, aussi, qui...
Ouais,
qui
non, mais ouais, la chanson, puis, non, puis par rapport à ce que ça dit sur le film, je trouve ça marrant aussi.
Ouais,
j'ai
oui,
bien aimé.
C'est un petit pied de nez à la fin du film. Et pour la fin, je l'ai gardé pour la fin. Parce que moi, mon titre préféré, c'est les monologues du frangin.
Ah oui, c'est Johanna, merci.
C'était vraiment le best titre à ce moment-là.
Pour le discours.
Ouais, et qui faisait sens avec le discours totalement à fond. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est, bah, malheureusement, il va être obligé de choisir un meilleur titre, mais il peut pas piocher dans les siens vu qu'il en a pas.
Oh, quel bâtard.
J'avoue, c'est méchant.
Oh, j'ai vu des catchphrases, moi je te défends.
Eh ben non, mais alors, moi je trouve que mes titres sont très injustement écartés souvent pour la blague. C'est une honte.
Ah. Non.
C'est une honte. Je pense qu'il y a un lobby.
Alors, attends, je vais te donner un tips. Tout est dans la façon dont
mais
tu
oui,
annonces ton titre,
c'est
en vrai.
Sûr, c'est sûr. Donc, moi, je considère que tous mes titres sont très bons, déjà, personnellement.
Alors que Kevin, cool, il a fait un boulot sur le long terme. Ouais, du coup, grave. Il a plus besoin d'effet d'annonce. Tu vois.
Après, tous tes titres sont pas bien, William. Je suis désolé.
Non. Kevin, il a un effet d'annonce. Il fait, ouais, j'ai des titres, ils sont pas ouf.
Il est toujours un peu blasé.
Non, mais alors parmi tous les titres qu'on gagné cette saison, il y en avait deux qui me plaisaient vraiment beaucoup et j'avais du mal à me départager. Finalement, je me suis rendu compte que c'était deux proposés par Johanna, donc moi j'avais bien les monologues du frangin qui me plaisaient beaucoup, mais je crois que j'aime beaucoup Rencontre du premier type qui passe, pardon.
Il est super bien, j'ai beaucoup hésité.
Mais c'est vrai qu'il est vachement bien.
Rencontre du premier type qui passe, c'est je pense celui qui m'a fait le plus rire. J'ai vraiment éclaté de rire quand tu l'as proposé.
Qui marcherait avec la petite sirène aussi d'ailleurs.
Il y en a un qui n'a pas gagné et qui aurait dû gagner.
Et avec réponse aussi, je crois.
Oui, il y a une petite mention spéciale.
Il
ouais.
y en a un qui aurait dû gagner et qui n'a pas gagné parce qu'il n'a jamais fini sur une affiche, mais c'est Spider-Man No Way.
Oui.
Qui est incroyable.
Ah non, moi je pense à celui que Clément adore.
Il y en a un autre qu'on adore et qu'on n'a pas osé mettre sur une affiche parce qu'on s'est dit c'est
trop
vulgaire.
Il a une pute. Ah oui.
Alors avec le recul, je pense que pour la nuée.
Il était bien, Criquet Châtiment.
Il a une pute, ça aurait été.
Ah oui,
Criquet Châtiment, caché 7 et 5, je ne sais pas. Revoir, c'était trop bien.
Ouais, il était bien. Ouais.
Mais je vois toujours en surimpression mille et une putes sur l'affiche.
Oui, moi aussi.
Aussi Kounouille sur le nom de.
Qui avait trouvé Criquet Châtiment ?
C'était moi, Criquet Châtiment.
Ouais, il était bien, ouais.
Bah voilà, c'était la petite phase décompression avant d'attaquer dans le lourd, quoi.
Mais je reste persuadé que quand même Hollywood Boulevard aurait dû faire un malheur.
Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Hollywood Boulevard, parce que si on doit parler aussi des. Parce que c'est vrai que c'est un film qui est sorti l'année dernière, mais l'épisode est sorti cette année. C'était ce fameux épisode où on a enregistré avec nos téléphones.
Ah oui, Manque.
Oui.
Pendant le
Manque.
Confinement, qui était incroyable, quoi. Parce qu'on était tous éparpillés aux quatre coins de la France avec zéro matos, pas de micro, pas de prise USB, que dalle, juste nos téléphones. Et on a tous mis notre fonction enregistrée. On a fait des claps, chacun de notre côté. Et
c'était
à la fin,
assez l'épisode flag.
System D, quoi. Ouais.
Ça, c'était vraiment System D, mais c'était cool à faire, quoi, de pouvoir parler de Manque alors qu'on était tous en manque, justement, de cinéma à ce moment-là, du confinement. Ça, c'était, voilà, c'était la petite détente, quoi. C'était les petits titres, évidemment. Le fait ton titre, une rubrique qu'on aime bien. Bah, bravo Jojo, bravo Kevin, vous ressortez beaucoup là dans les.
Non, surtout toi.
Ouais, t'en as pas
surtout
mal,
toi
aussi.
Et Jojo. Hein.
J'en ai deux.
Moi, j'en ai qu'un.
Hein. J'en ai deux, oui, ok, d'accord.
Ah, t'es déçu. Toi, t'as tous.
Mais oui, Kevin, c'est bon, c'est toi le champion, c'est toi qui as le plus
non,
de.
Non, mais je vois qu'il y a une vengeance.
Je vous propose de rentrer dans le lourd en commençant par le top douille.
Ah oui, oui.
Parce que, évidemment.
Ouais, mais avec du sourire dans la voix, toujours.
Bien sûr, bien sûr. On s'en est bouffé des douilles cette année. Et c'est le principe du game hein, avec Feta Bea, c'est que, ben, évidemment, on ne va pas juste se contenter des films qui, pour nous, semblent les meilleurs, parce que, de toute manière, on est souvent surpris. Sauf que là, cette année, il y a eu pas mal de douilles et on en a
cette
fait un top.
On a beaucoup été surpris.
On en a fait un top. Je vais commencer par la fin. On est sur un top 5, hein, évidemment.
Donc le 1, c'est la pire douille.
Là t'es 1, sur les douilles, d'accord.
Alors, juste pour bien comprendre, t'as fait une moyenne de nos douilles respectives.
Moi, j'ai rien fait encore. Mais justement, je vais demander
je
à...
Je vais le faire.
Voilà. Je vous ai demandé à tous de m'envoyer votre top 5 douilles, ce que vous avez fait,
analyse
évidemment.
Analyse en cours.
Et voilà, je te branche la clé USB.
C'est le mauvais côté.
Non, ah pardon. Là, hop, j'ai craché un peu dessus. Hein.
Retourne
non,
encore.
Oh, il y prend du plaisir.
Non, mais c'est parce qu'il faut toujours essayer trois fois avec les clés USB. Je sais pas si vous avez remarqué. Analyse en cours. Scan des données. Ouh, il y a beaucoup Benedetta. Tchou.
Ah,
il
bah
fait
voilà.
Le même bruit quand il
Eh ben, je l'ai là. Je l'ai là, c'est magnifique. Regardez, le top apparaît devant moi. Il m'en a fait une superbe moyenne.
Je te l'ai envoyé en Bluetooth.
Eh oui, vous m'avez en tous Bluetooth. Envoyé. Sachant que la première douille réconciliera tout le monde. Hein. C'est
ouais
clair.
Ah, il y a un truc unanime.
Il y a un truc, c'est unanime. On commence. Évidemment, avec quelqu'un qu'on a déjà cité en plus, parce que c'était le titre préféré de Kevin et Johanna. On commence avec Candyman cette année, ouais, qui se place à la cinquième position hein, de notre top 5 douilles.
Donc c'est le moins pire.
Pourquoi ce film est là? Je vous le demande. Même s'il y a un épisode entier sur ça, je veux que vous...
Mais parce que c'était pas si bien, quoi.
C'était même pas bien. Ah,
c'était raté, quoi.
C'était décevant, on comprenait pas le message...
voilà, c'était, on s'est fait chier. Quoi.
Et puis c'est surtout que c'était un épisode qu'on avait fait, nous, volontairement. Enfin, on avait pris cette BA volontairement parce qu'elle était assez plaisante à regarder, parce qu'elle nous donnait très envie et qu'elle nous a clairement douillé, quoi. Et c'est un des rares cas où on se fait douiller par la BA, où on aime la BA et on déteste le film.
Pour moi, c'était un slasher de bobo.
Ouh
oh.
Pour résumer mon avis ça, sur ce film.
C'était, et encore, on cherchait le slash dans le film.
Ouais.
Mais c'est vrai que tu sentais qu'il y avait une envie de passer un message derrière ce film et que c'était très mal fait via le genre qu'est Candyman.
Remember Antebellum.
Voilà. Comme Antebellum, ouais, carrément.
Ça me fait penser à ça.
Donc Candyman en cinquième position, hein, qui a été là présent dans plusieurs tops, mais qui se retrouve du coup en cinquième position. En quatrième position. Saurez-vous me dire le film qui se cache en quatrième position, étant donné qu'on y a fait référence aussi plusieurs fois pour parler de sénilité.
Le dernier duel.
Quoi?
Ah oui, Martin n'est pas d'accord.
Ça va être drôle, il y a des clashs.
Ah, c'est marrant, parce que moi, je l'ai pas aimé, je l'ai pas mis dans mon flop.
Oui, Martin, tu risques d'être déçu parce que j'ai vu un dernier duel traîner dans un top et pas dans un top
non,
flop.
Bah, écoutez, j'ai participé à l'enregistrement de Feta Béa sur le dernier duel et c'est vrai que j'étais un petit peu pas seul mais presque sur.
Tu peux le dire.
Ah, t'étais seul.
Mais en France, tu n'es pas seul parce qu'il y a plein de gens qui ont bien aimé ce film.
Il revient beaucoup dans les tops de l'année.
Oui.
C'est vrai que bizarrement, c'est un film qui a été beaucoup apprécié. J'ai pas mal de.
J'aime bien le bizarrement.
Bizarrement. Les gens ont de ses goûts.
Bah parce qu'il est pas terrible, quoi. Non, mais ça me rappelle un peu l'effet qu'on avait fait. Le film qu'on avait fait en saison 2, je crois, de Gentleman. Cartonné, que j'ai retrouvé dans plein de tops en fin d'année dernière.
Ouais, on était
alors
sur un autre niveau
détesté,
de nul,
quoi. C'était.
Après, je pense que c'est parce qu'on s'était fourvoyé sur Guy Ritchie. Je pense qu'il était comme ça depuis le début, mais c'est juste qu'avant, on avait la surprise. Tu vois.
Alors que là, on était certain d'avoir quand même un réal qui a fait ses preuves, mais qui nous confirme que il faut raccrocher, quoi, tonton Ridley.
Tu dis ça parce que t'es un millénial.
Mais non, mais.
Moi, je l'ai pas vu.
Ridley Scott.
Je pense qu'il y a un film plus misogyne que l'autre, entre The Gentleman et Last Duel.
Je pense qu'objectivement, c'est pas du tout un mauvais film, parce que justement, la preuve, il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup, mais nous, subjectivement, on n'est pas rentrés dedans. Ça nous a pas touchés. Il a un message en plus, ce film, et ça n'a pas marché sur nous.
Puis encore une fois, la BA aussi nous avait vendu du rêve qu'on n'a pas eu.
Mais parce qu'il a une structure particulière et un parti pris, et c'est ça qui nous a...
Et surtout qu'on avait imaginé une structure qui, pour nous, parlait plus que la structure du film réel. C'était pour ça qu'on avait été aussi pas mal déçus. En numéro 3... Ah, ça y est, on rentre déjà dans le trio de tête, hein, ça va vite. Hein. En numéro 3... Ah, il a passé le bout de son nez il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans l'émission. Hein. On l'a démonté il n'y a pas plus tard que...
Spider-Man.
Spider-Man.
Il est là. No Way
Moi,
Home.
Moi, je suis étonné qu'il soit que en 3.
Eh ben oui, mais attends. Parce que...
Il y a du lourd.
Attends, il y a du lourd.
Je
suis
curieux
de savoir, ouais.
Spider-Man No Way Home, hein, qui nous a arrivé la semaine dernière et qui est déjà dans le top 5 des douilles.
Il faut dire qu'il a fait beaucoup d'efforts pour y être, donc il y est, quoi.
Mais faut qu'on récompense quand même tous ses efforts.
Écoute, troisième position pour Spider-Man No Way Home, qui est en train de tout déchirer là au cinéma, mais qui pour nous n'a pas suffi. Hein. Il aurait fallu beaucoup plus pour qu'on apprécie ce film. Malheureusement, c'est John Watts qui est derrière. Et il nous a montré à deux reprises que
c'était qu'il y peut quelque chose.
Un super réal. Enfin bref, vous avez déjà écouté tout ça dans notre match retour, vu qu'il est encore tout frais. Numéro 2.
Là, on commence à attaquer le lourd. Là.
Ouais.
Est-ce que c'est Bénédetta? Je pense qu'on se demande chacun si notre 1 et 2 va être dedans.
Ouais.
Je sais pas. Numéro 2, si je vous dis que c'est un rapport avec le numéro 3.
Ouais, bon.
Venom 2. Okay. Ah, c'est Venom. Spider-Man, mais l'autre.
Non, Venom 2.
Venom.
Ah, je l'ai pas vu.
Je l'ai pas vu non plus.
Venom, là, qui débarque. Bah oui, en place numéro 2.
Alors là, Clément l'avait pas mal aimé.
Ouais, c'est un grand mot.
Mais tu l'as pas mis dans
On va dire
flop.
Que je l'ai défendu et je l'ai pas mis dans mon flop, effectivement.
Donc Clément, elle a fait quand même un travail intellectuel que je trouve assez vain, finalement.
En fait, il a fait un travail intellectuel à la place
des
du qualités, film. Voilà,
mais à la place du film. Donc, mais,
ah, c'est
voilà.
Vrai que toi, t'étais arrivé en mode « Attendez, moi, j'ai vu quelque chose que personne n'a vu. »
Moi, je trouvais qu'il y avait un propos plus, d'ailleurs, que dans Far From Home.
Ouais.
No Way Home, pardon.
Oui.
Il dit « Ketchup ».
N'empêche que c'est...
Et ça m'a fait plus rire, pour le coup, vraiment.
Mais voilà. On... Mais
non, vrai, il faut le dire, c'est une purge.
Mais c'est pas foufou. Hein,
c'est une pure purge. Hein. Moi, je me souviens avoir vu le film. Enfin, j'ai même pas vu le film. Hein. J'étais sur mon portable dans un coin de la salle. Parce qu'il y avait pas grand monde. Mais je me suis mis dans un coin de la salle, au fond, contre un mur, sur Instagram, pendant que le film déroulait. Parce que je savais très bien que, de toute manière, il n'y avait aucun intérêt.
Donc tu ne l'as pas vu. Félicitations.
Si, je l'ai vu, je levais la tête de temps en temps.
T'es fier de toi?
Voilà, quoi. Non, non, mais si, si,
c'est
si,
à cause de toi que les films de Ridley Scott ne marchent pas.
C'est de ma faute que les films de Ridley Scott ne marchent pas.
Oui, bah non, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit.
Oui, mais moi je fais pas partie des jeunes. Dont il moi j'ai pas TikTok, tout ça.
Venom 2, film dont le titre avait été gagné par un auditeur, Le Rouge et le Noir.
Ah ouais.
Oui, c'est vrai.
Oui, par le copain Guillaume de Youpi la vie.
Exactement. Ouais,
qui nous avait donné ce titre qui est une de nos affiches les plus aimées sur les réseaux.
Ouais. C'était un super titre. Hein.
Parce que le titre est génial. On passe. Au numéro 1.
Benedetta.
Benedetta. Bah, je suis sûr. Il
n'y
a pas de suspense en fait.
Ça peut être que ça.
Ça peut être que Benedetta.
T'as les stats individuelles de qui l'a mis en 1 ?
Alors, oui, j'ai les stats individuelles. Il faut savoir que Benedetta est largement première. Largement premier du top douille fait à Béa. Benedetta Clémence l'avait classé premier. Pire douille de l'année. Clément, pire douille de l'année. Johanna, pire douille de l'année.
Ah ouais.
Ouais, ça commence à faire beaucoup.
Mais en fait, c'est en fonction des attentes.
Oui.
C'est ça le problème, c'est que moi je l'attendais de ouf.
Bah, voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que nous, quand on parle de douille, on parle surtout par rapport à la BA, aussi du film, hein, forcément.
Il est peut-être beaucoup moins pire que Venom et Spider-Man et tout, mais seulement, moi je l'attendais tellement que... C'est la déception en fait.
C'est un épisode qui est plutôt rigolo à écouter après recul, parce qu'on est tous en mode, ah, ça va être trop bien, Verhoeven c'est trop... il est trop fort,
l'ascenseur émotionnel,
trop sauce, Verhoeven. Et la BA était bien.
La BA était bien, et oui, elle vendait aussi un bon produit de cinéma, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, on t'a jeté de la merde à la gueule.
C'est voilà, de la pub pour un God Miché.
Tu l'as vu toi, Martin, Benedetta?
Non, justement, j'ai pas vu ce film. Bah, voilà. J'ai pas pu le mettre dans mon...
Et il est dans beaucoup de tops de l'année aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré, faut le dire. Parce
ouais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le film, il y en a qui ont détesté radicalement comme nous, et ceux qui ont adoré. Il n'y a pas de juste milieu.
C'était un film très surprenant.
Moi, j'ai trouvé que c'était papy lubrique, quoi. Je mets les actrices à poil tout le temps, en fait.
Et c'était pas déjà... Genre Showgirl, c'était pas déjà un peu le
cas
Ouais,
mais là, c'est gênant, quoi. Il a plus de... Je sais pas quel âge. Je sais pas.
Ah, mais Showgirl, j'avais un peu mal... plus un propos, quoi. Mais là, non.
Oui, et puis bon, le film en soi était vraiment... dégueulasse.
Et les
quoi.
Effets spéciaux.
Au regard de ce qu'il a fait avant, c'était vraiment un mauvais film. Dans sa filmographie, en tout cas, il est vraiment en bas du classement.
Ça fait mal. Alors, pour répéter un peu notre top douille, dans l'ordre, hein, du coup, Benedetta en premier, Venom 2 en deuxième, No Way Home, Spider-Man en troisième, Le Dernier Duel en quatrième et Candyman en cinquième. Eh ben, dis donc, c'est une belle brochette de merde, hein, tout ça.
Hein. C'est vrai.
Une brochette trop cuite. Ouais,
mais quand même.
Mais même bien cuite, tu la manges pas, quoi. Tu la laisses, tu la passes à ton copain.
J'aurais pas misé sur Verhoeven en premier, quand même. Je pensais plus que Venom 2 ou No Way Home allait finir premier.
Mais qu'on n'en attendait rien, ça.
Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Je pense que c'est vraiment le poids de la déception là qui fait que Benedetta est premier. Et peut-être pour le dernier duel, s'il se retrouve là aussi, je pense que c'est aussi en grande partie à cause de ça. Petite mention spéciale pour le top douille. Ont été cités dans pas mal de vos tops et sont arrivés du coup en position juste derrière le 5. Back North
a été sorti
par Johanna.
J'ai mis deuxième.
Johanna et Clément, voilà, qui ont vécu du coup, j'imagine, une mauvaise expérience avec le film, c'est ça?
Oui, et puis j'ai trouvé le film idéologiquement pas possible en fait, vraiment. C'est très bien techniquement, c'est très bien fait et tout, mais c'est le fond qui m'a énormément gêné en fait. Et d'ailleurs, le film a fait scandale un peu sur ça, quoi.
Échappe de peu au top 5. Un autre film aussi qui avait été très attendu par une grande communauté de fans en France.
Ah, c'est Kaamelott.
Kaamelott. Kaamelott, qui se retrouve, 7e si on veut. Hein,
C'est dur, je trouve.
C'est dur, non, c'est je pense dur. Que je comprends. Johan, par exemple, toi, tu l'as mis dans ton top.
Oui, parce que...
Dans ton flop.
aussi. Parce que j'adore la série. Je m'attendais à ce que 10 ans après, il fasse quelque chose de mieux, de plus maîtrisé. En fait, là, c'est vraiment un épisode de Kaamelott étendu, bancal, comme les épisodes de la série. Ce qui, pour un film, est quand même très, très, très con.
Et qui ne fait pas très honneur aux médias, du coup. Tu te dis, si c'est pour voir du M6 au cinéma, c'est un peu dommage, quoi. C'est ça aussi. Moi, je te comprends parce que je l'avais mis aussi dans mon top, dans le sens où c'est vrai que c'était un film qui était vachement attendu. Tu attendais beaucoup de Alexandre Astier, tu attendais une vraie épopée, une vraie aventure fantaisiste. Et en fait, pas du tout.
Oui, après, je l'ai trouvé maladroit. Maladroit, pas maîtrisé. Du coup, t'as l'impression qu'il a écrit le scénar à l'arrache pendant le confinement et c'est tout.
Je comprends la douille. Et j'ai vu un autre film aussi qui est passé par là, mais qui se retrouve aussi en mention spéciale, le Deep House, Clémence.
Ah oui, ah bah c'est marrant, je suis contente d'en parler parce que je voulais faire un petit coucou à Marion, qui n'est pas avec nous, mais qui nous avait permis à Kevin et moi d'avoir des places pour The Deep House. Et on ne l'a pas fait dans le podcast, mais pour moi, c'est une des pires douilles de BA de l'année. Vraiment.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, c'est une bande-annonce, il n'a pas fait beaucoup de bruit et la bande-annonce n'a pas fait beaucoup de bruit, mais quand je l'ai vue par hasard sur Internet, ça m'a hypée instant. Mais direct, j'étais
la
en mode,
était trop
cool. Le concept, la BA est trop cool, je veux trop voir ce film, c'est pour moi de l'horreur. C'est Alexandre Boustillot qui propose des choses intéressantes en général en horreur française.
C'est le duo qui a fait à l'intérieur.
Boustillot et Maury. Mmh. Ouais. Et du coup, le principe, c'est la maison hantée qui sous est l'eau. Sous l'eau. Ouais. Et c'est de l'urbex, mais sous-marin. Et voilà, c'est vraiment un high concept, mais la BA promettait des images belles en plus et flippantes. Et donc, on demande à Marion, qui avait une séance spéciale dans son cinéma où elle travaille, pour avoir des places. On y allait et tout. On était un peu hypés. Et en fait, mais énorme déception, c'était nul! Mais c'était nul.
Elle
a dit ça, la moitié de son âme est sortie.
Le cri du cœur.
Mal réalisé, mal écrit, mal joué. On voit rien dans les scènes qui sont censées être un peu flippantes. Enfin, je sais pas, Kevin, si tu veux rajouter quelque chose. Mais...
Oh non, je...
TDR.
Non, je viens seulement de m'en remettre.
C'était
ça fait
grosso
mois.
Modo à chier, à part peut-être le fait que, qui est toujours un peu impressionnant de savoir que t'as toute l'équipe qui était, qui était sous l'eau, donc équipée, etc. Et là, donc je salue l'équipe technique parce qu'ils étaient là et ils ont fait leur boulot, mais après, malheureusement, le film, ouais, il tient pas la route. Tous les effets de peur ne marchent pas. C'est écrit par un ado de 15 ans. Enfin, c'est catastrophique.
Aïe. Bah écoutez, on n'ira pas voir, mais bon, au moins c'était gratuit. Voilà.
Oui, c'était gratuit.
Mais j'ai beaucoup aimé leur film d'avant, tu vois. Donc,
Je termine avec les douilles comme ça, un peu individuelles. Toi, William, t'avais mis Space Jam 2.
Oui, alors c'est un premier. C'est un épisode qu'on devait faire, que finalement on n'a pas fait parce que problème de planning pour tout le monde.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, allez, je vais quand même aller le voir. Et c'est sûrement un des pires films que j'ai vu de ma vie tout court.
Ah oui.
On est sur
vraiment.
C'est-à-dire
que si vous avez trouvé que le dernier Spider-Man fait du fan service, celui-là il en fait 100 fois plus quoi. Vraiment.
Surtout qu'avec c'est quoi, c'est la Warner en
voilà,
entier,
c'est
donc
la
t'as
Warner
du Game of Thrones,
entier,
t'as des cartoons,
y a tout,
t'as tout en fait. Hein.
Y a tout. Ils passent le film à ne te montrer que en fait les autres héros.
D'autres franchises.
D'autres franchises, oh en fait. Et bon, on parle pas du jeu d'acteur de LeBron James, de tous les acteurs en fait. C'est vraiment cette terrible.
On peut pas être bon partout.
Non non non. Ouais. Moi, je m'y connais pas bien en basket, mais j'espère qu'il est vraiment meilleur basketteur.
C'est le meilleur all-time.
D'accord, ok. Bon, alors, dans ce cas-là, tout va bien pour lui dans ce cas-là.
Je ne l'ai pas vu parce que je n'irai pas voir ce film, tout simplement. Mais j'avais lu que c'était aussi très cynique dans le message en soi, que, par rapport à ce que ça voulait dire, l'univers qu'ils essayaient de créer, dans leur histoire.
C'est vraiment...
Tu sentais le côté méta qui était un peu bizarre.
C'est très difficile à décrire parce que c'est un ovni en termes de structure, de ce qu'il veut proposer, de ce qu'il raconte. Enfin, ça n'a aucun sens. J'ai passé vraiment le film à me dire mais qu'est-ce que je regarde. C'est incroyable en fait de me dire que Warner a fait ce genre de film quoi, avec autant de budget, autant.
Ça m'étonne pas d'eux.
Enfin, c'est incroyable.
Ça m'étonne pas d'eux, mais ça, je crois que ça a bien marché quand même parce que du coup
ça
a fait venir.
Bienvenue chez les Ch'tis aussi. Hein,
enfant et
ça veut pas dire. Que,
voilà. Oui, mais bienvenue chez les Ch'tis, mine de rien. Enfin, bon, bref, on n'est pas là pour débattre de Danny Boone. Hein. Alors oui, juste comme ça, petite mention spéciale aussi où j'ai vu que toi, Martin, t'avais mis Illusion perdue en premier.
What
je savais que ça allait avoir cette réaction là.
Non, pas en premier, alors j'ai inversé. Enfin, bref. Non, mais en fait, c'est vraiment comme vous dites, c'est le principe de la douille en fait. J'avais lu le roman l'année dernière, par hasard, je savais pas qu'ils allaient l'adapter. J'avais kiffé, franchement, j'avais vraiment adoré la lecture. Et je sais pas, je suis pas du tout rentré dans la proposition du réal et. Je sais pas. Enfin, alors franchement, et pourtant, ouais, comme vous, hein, autour de moi, après, j'ai eu pratiquement que des gens qui m'ont dit
adoré.
Quoi, mais j'ai adoré. J'ai trouvé. Et je sais pas. Vrai, je peux pas dire autre chose que j'ai pas réussi à rentrer dedans, ni au niveau des acteurs, au niveau des décors. Je suis resté en dehors de la proposition du film.
T'es arrivé avec trop d'attentes, en fait.
C'est possible.
T'étais atteint du fameux SDR.
Du SDR.
Je crois que c'est ça.
Syndrome de l'attente. Ah, c'est très dangereux, hein, le syndrome de l'attente. Hein. Surtout si, quand c'est des adaptations de livres que t'as kiffé.
Ouais,
c'est
ça
souvent
c'est...
très compliqué
ouais, ça c'est
d'apprécier
dur,
le film. Ouais. Ouais. On peut comprendre.
Je précise, je l'ai pas mis en numéro 1 des douilles quand même.
Ah, je croyais, mais oui.
Non, c'est moi qui ai dû inverser. J'ai dû mal faire. Non, mon numéro 1 c'était bien sûr
Justice
League. T'avais Zack
Snyder Justice League aussi. Justice League pour toi, c'est une douille. On peut comprendre, c'est pas forcément.
4 heures de douille.
Pas forcément dingue. Et petite mention à Black Widow aussi qui revient dans notre top, Johan et moi.
J'avais même oublié l'existence de ce film.
Un des pires films que j'ai vu cette année.
Comme je l'avais mis aussi dans mon top.
Et oui, William aussi, tu l'as mis.
Oui.
Comme quoi, Marvel cette année, Venom 2, Black Widow, Spider-Man.
Et puis en plus, je me fais avoir à chaque fois parce que moi, je ne peux pas blairer le MCU. Et à chaque fois qu'ils sortent un film, j'y vais quand même. C'est un peu comme les films de Noël sur Netflix. C'est un peu comme les films de Noël sur Netflix. Voilà, je vous avoue un truc. Je déteste ça, mais dès qu'il y en a un qui sort, je regarde. Je suis un connard. À chaque fois,
c'est un plaisir coupable.
Et au bout d'une heure et demie, je me dis, mais qu'est-ce que je regarde?
C'est à cause des gens comme toi que le monde tourne mal.
Je te fais un aveu. L'autre fois, j'ai maté en entier un film de Noël sur TF1 avec tous les comédiens des frères Scott dedans. C'était ouf.
C'est pas l'épisode de Noël des frères Scott,
Non, même pas, c'était incroyable. Ils ont fait du fan service frères Scott, quoi. À un moment, t'en as un qui passe juste la tête à la fenêtre, genre, hé, voisine, ça va? Et t'es là, hé, c'est Skills, trop bien. Et
on appelle la police dans la vraie vie.
Alors, c'est pas passé dans le général et tout, mais moi j'avais mis Conjuring 3 aussi, qui avait pris qu'une seule demi-lune.
Ah, pas vu.
Il est pas si fou, ouais.
Parce que moi je note en lune sur 5. C'est comme le niveau de torture sur le jeudi dimanche, mais là c'est des notes. Ouais, Conjuring 3 qui était épouvantable, hein, comparé aux deux premiers. Enfin bon, bref, le 3 n'a pas lieu d'être, alors que le film m'a cartonné. Je suis vraiment toujours à contre-courant, c'est incroyable. Et aussi, j'avais mis ce film Netflix, Comment je suis devenu super-héros.
J'y ai pensé.
C'est vrai que tout le monde a encensé en disant génial et tout, mais on dirait une vieille vidéo YouTube dégueulasse.
Non, c'est pas bien.
Enfin voilà, on pourrait en parler des heures si vous voulez, mais bon, il n'y a pas le temps là, ça reste une douille.
J'aimerais qu'on fasse juste un petit baroud d'honneur pour Fast and Furious 9 qu'on a vu tous ensemble au cinéma. Oui. Parce qu'on a bien rigolé quand même.
C'est pas une douille.
C'est trop bien. C'est loin d'être une douille. Et un petit baroud d'honneur pour le pire match retour de l'année. Ça, c'est parce qu'on était
torchés. The Nest. Ah oui,
pas mal revenu.
Sur Valgate.
Avec Jude Law et Carrie Coon.
Pour moi, c'était un peu une déception, vraiment. C'est une douille. Hein.
Ouais, c'est une pure douille. Hein.
Moi, je l'oublie.
Mais parce que vous avez pas vu. Enfin bref, ouais, on va pas revenir dessus.
On va pas revenir sur l'histoire du cheval.
Allez, écoutez le pire MR.
Pire match retour de 2021. The Nest. Bon, voilà, vous avez du coup toutes nos non-recos. N'allez pas voir ces films. On vous partagera évidemment notre top 5 aussi sur les réseaux, hein, pour aussi avoir les vôtres en retour. On va passer tout de suite au top
les films
5
qui sont bien
de l'année. Ah. Les meilleurs films faits à BA de l'année. Et c'est tout de suite, c'est maintenant. Jingle. Oh oui. Top 5 de l'année chez Feta Bea. Quel calculateur ?
Oui.
Oui, présente-moi ton port USB, s'il te plaît.
Et je me tourne.
Que je puisse t'y insérer
aucun sens.
Le top de chacun des chroniqueurs autour de la table qui m'ont évidemment rendu
mais là,
en temps
doucement.
Et en heure. Hop.
On va arrêter cette blague.
Je te l'ai mise là, je l'ai introduite.
Plus.
Analyse en cours. Analyse terminée. Transmission via modem.
Ok, ça arrive, c'est bon, je l'ai. J'ai le top 5 de la team Feta Bea de cette année. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé depuis le début, mais vous avez bien compris qu'il y a des films qu'on a fait dans l'émission, comme il y a des films qu'on n'a pas fait dans l'émission, car on ne va pas au cinéma juste pour voir les films de l'émission, sinon notre vie serait quand même un peu triste. Donc du coup, vous allez retrouver un peu vraiment le top 5 de l'année, film de l'émission et pas film de l'émission mélangé. On va commencer par les mentions spéciales, si vous voulez bien. Alors, j'aimerais faire une petite mention spéciale à un film qui est revenu, mais qui malheureusement n'a pas pu trouver sa place dans le top 5. C'était Petite Maman.
Ah oui,
trop
c'était bien.
Petite Maman, c'était trop bien.
Ah, Martin Lepémé.
Non, j'ai pas vu. Je sais même pas ce que c'est.
Céline Sciamma. Tu vois, Céline Sciamma.
Oui, bien sûr. Oui, mais en plus, je voulais aller voir ce film, mais j'avais oublié.
Son dernier film, voilà, Petite Maman, qui était une petite Madeleine pour nous.
Petite Maman.
Un petit bonbon en début de saison.
C'était très beau.
C'était même pas début de saison, c'était saison 2, Petite Maman, je dis n'importe quoi, mais c'était vraiment un film ultra touchant, ultra sympa en fait, simplement. Et puis,
Touchant, et court,
et ça faisait plaisir quoi.
Ouais, c'est clair.
Un film court, ça fait du bien quoi, sur un peu de temps en temps. Donc voilà, petit big up à Céline évidemment, qui va revenir certainement avec un autre chef-d'œuvre plus tard.
J'imagine.
Autre mention honorable. Onoda, que j'ai pas vu.
Ah, oui. Oh, magnifique.
J'ai pas eu le temps d'aller le voir non plus.
Un chef d'œuvre pour moi. Vraiment.
C'est les colocs Johanna et Clément qui nous ont proposé ce film dans leur top. Pourquoi ?
Moi aussi, il y est.
Oui, toi aussi, excuse-moi, oui, c'est vrai.
Alors, moi, je vais parler de la photo. Chaque plan de ce film est un tableau. Déjà, la photo est magnifique. Le sujet, qui a une histoire vraie, est passionnant aussi. Et en fait, c'est un beau film qui prend son temps et qui a un rythme qui, personnellement, m'a beaucoup plu. Ça fait du bien de prendre son temps aussi pour raconter une histoire.
Et c'est un film français, tourné avec des acteurs japonais. C'est un deuxième film. Enfin, il y a plein d'audace dans ce film. C'est tourné en 4 tiers. Et bah, c'est une splendeur, hein. Franchement. Pour moi, c'est un des plus grands films de cette année. Je pense qu'au César, il y sera, clairement.
Et c'était quoi déjà, parce que ça m'avait surpris, c'était quoi son premier film justement avant ?
Le premier, c'est Diamant Noir.
Voilà, ouais, c'est ça.
Que j'ai pas
trop
aimé.
Qui est sur Netflix et qui est pas fifou. Ouais.
Ouais,
et c'est
pas...
très étonnant.
Oui, c'est ça, ça m'avait surpris.
Les deux, quoi. Ouais.
Onoda, c'est l'histoire, une histoire de guerre ?
C'est
ça,
l'histoire sur le dernier combattant japonais qui restait caché jusqu'en 1975, je crois.
Ouais, c'est ça, ça. Ouais.
En gros, c'est un gars à qui on n'a pas dit que la Deuxième Guerre mondiale était finie.
Si, on lui a dit,
mais il l'a pas cru. Et du coup, il est resté pendant 30 ans en guerre, seul, avec sa tenue de militaire à faire chier des villageois machin.
Oui, à brûler leurs champs et tout.
C'est
seul.
Métaphysique, quoi.
C'est l'histoire d'un.
Alors, il y a une petite, parce que moi, pour moi, c'était ça le résumé. En fait, il est pas seul.
Au début, il est pas seul.
Mais pendant longtemps, moi, je pensais vraiment tout le film, ça serait quelqu'un de seul. Ouais. Et pendant longtemps, il est pas seul, quand même.
Et en fait, c'est pas qu'il est con, c'est que il a été formé dans ce sens. C'est quand on lui a dit qu'il y a une personne précise. Ce qui est la seule personne qui doit croire son supérieur. Et sauf que comme c'est pas son supérieur qui lui annonce, il refuse de croire. Que c'est vraiment la fin de la guerre. Il pense que c'est une machination pour qu'il arrête de se battre.
Ok, d'accord.
Bon. Et c'est une histoire
vraie. Ça me paraît complètement fou comme histoire. C'est une histoire vraie.
Et après, il a un contexte particulier aussi, lui. Quoi. C'est qu'il a été formé avec des gens qui sont un peu al dente aussi.
Donc, photo incroyable, jeu incroyable.
Ils sont italiens.
Film incroyable, photo incroyable. Écoutez, c'est sur ma liste de Noël. Il faut absolument que je voie ce film. Arrive en mention honorable, et c'était pas loin de rentrer à ça, hein, dans le top, Julie, en 12 chapitres.
Oui, génial.
Ça, j'ai vu du côté de chez Martin, il y avait du Julie en 12 chapitres en top 1, carrément.
Ah ouais.
Ouais. Clémence aussi qui nous l'a mis.
Je l'ai pas mis en top 1, mais en top 3, je crois. Ou
pourquoi Julie ? Moi, je l'ai pas vu, je sais que tout le monde en a parlé, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de le voir, il va falloir que je me précipite avant qu'il disparaisse des salles. Pourquoi Julie en 12 chapitres ? Clémence, Martin.
Vas-y Clémence, je t'en prie.
Ben, c'était pour moi une séance comme je les adore, c'est-à-dire que je suis allée le voir toute seule, c'était pas prévu, j'avais du temps devant moi et je vais au ciné et je vais voir ça en mode je sais pas si je vais aimer ou pas, et j'ai mais été trop bouleversée en fait par le personnage, l'histoire. C'est difficile d'expliquer parce que c'est très Linklaterien, c'est très calme comme film, enfin c'est... Je saurais pas dire si la photo elle est belle ou pas, je saurais pas dire c'est l'écriture qui est bien, c'est les personnages, c'est le montage, le rythme, je sais pas, Martin, je te laisse compléter.
Ça parle de quoi ?
Ouais. Ah oui, pardon, en fait c'est Julie qui est l'héroïne et on la découvre quand elle est étudiante et l'histoire commence par le fait qu'elle est étudiante et qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie, donc elle change beaucoup d'avis. En fait, elle se passionne beaucoup pour plusieurs choses, de l'art à la médecine, enfin à la psychologie, à la photographie. Voilà, elle se cherche un peu. Et puis, à partir de là, eh ben, on la voit vieillir. Donc, c'est à peu près entre ses 20 et 30, 35 ans, toutes les problématiques un peu d'une femme, en fait, qui se cherche, qui rencontre des mecs...
Sa vie d'adulte, quoi.
Qui côtoie des gens plus âgés qui ont des enfants, mais qui n'en a pas elle. Et, voilà,
oui,
ça,
donc
ça
questionnement
ça,
un peu sur la life, tout ça.
Ouais, ouais, c'est très trentenaire comme film, je trouve.
Le souvenir que j'en ai, c'est pour résumer, c'est une femme aussi qui a beaucoup de mal à s'engager dans ses histoires d'amour et qui refuse de s'engager. Et à côté de ça, aussi le souvenir qui me revient en premier, c'est aussi l'histoire qu'elle a avec. Une des histoires principales du film qu'elle a avec un des mecs. Le mec est atteint d'une maladie incurable. Et donc, à côté de la légèreté et de ce côté un peu romantique, un peu léger
fleur
aussi.
Bleue.
Parce que quand elle côtoie tous ces mecs, y a quand même une histoire assez lourde derrière aussi. Et en fait, c'est le même réal qu'un autre film que j'avais beaucoup aimé. Et on y retrouve l'acteur principal, dont j'ai oublié le nom, mais qui avait réalisé Oslo 31 août.
C'est Joachim Trier. Ouais.
Voilà. Et avec une scène assez marquante au milieu du film, je sais pas si tu vois celle à laquelle je fais référence, quand elle...
Pas de oui, spoil, pas
oui,
de spoil.
Oui, oui, oui. Oh, oui, oui, en fait c'est ça.
Oh, bah, qu'on s'emmerde.
C'est le chapitre 6. Voilà, c'est ce qu'on peut dire.
C'est un des films dans lequel j'ai vu la plus belle scène de rupture du cinéma, quoi.
Meilleure que celle de Ross et Rachel.
Du cinéma, on t'a dit.
De toute façon, oh, ils faisaient un break. Hein.
We were on a break.
Oui, ils étaient en break. Hein. Oui, oui. Je suis.
Ça donne
break.
Envie, trop envie de le voir.
Ça donne super envie. Ouais. Tout le monde en parle avec beaucoup d'adjectifs qui donnent envie.
Ah, et l'actrice, elle est incroyable. Ouais. Je sais pas si elle peut être nommée.
Elle a eu le prix d'interprétation à Cannes.
Bon, bah voilà. Ouais, elle est incroyable.
Bah là, ça part pour les Oscars, à mon avis, en tant que film étranger. Ouais. Il y a de fortes chances, vu que le film a cartonné un peu partout.
Mais c'est un film français, du coup?
Non.
Finlandais. On a déjà un film sélectionné.
Norvège.
C'est Norvège.
C'est Norvège, parce qu'il avait fait Oslo 31 août.
Norvégien
comme film. Julie, en 12 chapitres, on rentre, les amis, dans le top 5. Le top 5 de l'année de chez Feta Bea. Numéro 5, c'est un superbe film que j'ai vu dernièrement et que je conseille à tout le monde. Les initiales sont L-I-S de ce film. Est-ce que vous l'avez ou pas?
L-I-S.
L-N-I-S, pardon.
Oui. Ah. Last L-N-I-S. Night in Soho.
Ah, Last Night in Soho.
Last Night in Soho.
Martin est au bout de sa vie.
Je suis un peu à contre-courant.
Last Night in Soho, que tout le monde a vu, je crois, autour de la table. Hein.
Oui, ouais. C'était très bien.
Et qui est un film qui était en concurrence chez nous pour passer dans l'émission, mais malheureusement, c'est Wes Anderson qui a gagné. Parce qu'ils sortaient la même semaine, ces deux-là.
Malheureusement.
Donc, malheureusement, pour que les gens.
De toute façon, Martin n'aurait pas aimé, de toute façon. Donc. Pas de regret.
Quoi, lequel?
T'avais les pas deux. Aimé le Wes Anderson.
Ah, ouais. Non, ouais.
Last Night
ah,
in
si,
Soho.
Ouais, non, mais pas. J'ai préféré le Wes Anderson que le. Qu'Edgar Wright.
Johan, toi, c'est un film que t'as mis en premier ex aequo avec Dune oui. sur ton top. Last Night in Soho, ça t'a vraiment marqué, quoi.
Ouais, parce que je suis généralement pas fan des films qui se passent à cette époque-là. Je suis très fan d'Edgar Wright, mais j'ai les films de cette époque, c'est pas
oui, parce
super
que c'est
ouf.
Un film qui se passe de nos jours, mais
dans les années 60.
Qui est un peu un voyage dans le temps, entre guillemets, dans les années 60.
Ouais. Et le film enchaîne différentes ambiances. C'est un film très léger au début, très mignon, romantique. Et puis après, ça part en film pas romantique et vraiment très cruel. Puis après, ça part en film d'horreur. J'ai trouvé l'enchaînement bien fait. La fin est un petit peu... Bon, la fin est pas super, super
c'est
bien.
Un peu
c'est... Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a... Un truc qui m'a touché dans ce film,
ouais,
je sais pas pourquoi.
Bah, c'est la lecture d'Edgar Wright, parce que c'est vrai que c'est ce genre de recette qu'il a aussi de passer de genre en genre d'une manière assez facile. C'est ce qu'on retrouve un peu dans son cinéma. Je pense notamment à Shaun of the Dead ou à la trilogie Cornetto, en règle générale, quoi, qui partent de genres très précis pour partir complètement sur un truc loufoque. Et on retrouve ça dans Last Night in Soho. Et c'est vrai que, comme la plupart de ses films, je trouve que dans le dernier acte, ça retombe. C'est dommage, mais ça n'empêche pas que c'est un film à voir et à
conseiller. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, et j'ai beaucoup aimé la fin, et notamment la toute fin de ce film qui, pour moi, délivre un message de sororité vraiment, vraiment cool. Et je trouve que Edgar Wright, il réussit là où j'ai pas été touchée par Ridley Scott sur Le Dernier Duel, à faire un film de femme, de féminité, qui en parle bien, en fait, qui est pas maladroit, alors que c'est un mec qui le fait, quoi. Mmh.
Et oui, puis... c'est ça, le message de fin, je le trouve bien, c'est dans la manière de l'amener, le petit twist, ça, c'est du chipotage.
En gros, c'est soit t'as capté le twist avant, soit pas. Ouais. Moi, oui. Ça a marché sur moi parce que je l'avais pas vraiment venu.
Moi, je l'ai pas vu venir
c'est
non
sûr
plus.
Si tu
mais...
le vois venir,
oui,
c'est
mais
un
après,
peu...
après le
venir,
twist.
Mais ça a marché quand même. Hein.
Mmh. Ouais, pareil. Mmh. Après le twist, il y a un autre retournement qui est super cool. Je trouve.
Quand elle retourne sa veste.
On va pas spoiler, c'est difficile.
Il y a
un double retournement de veste.
Non, mais on conseille ce film à tout le monde, en fait, parce que c'est vrai que c'est un film.
L'atmosphère est incroyable.
C'est un film que peut-être, si on voit la BA, on pourrait se dire, ouais, c'est années 60 et tout. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un film qui pourrait nous douiller sans qu'on s'en rende compte, en fait. C'est vraiment, ça se passe de nos jours avec des personnages qui vont nous parler directement. Mais il y a cette petit retour dans le passé.
Mention spéciale à la scène de danse.
Grosse mention spéciale à la scène de danse.
Le making-of est très cool à voir.
Sans effets spéciaux.
Qui est incroyable. De toute façon, ce mec est un génie. On ne le dira jamais assez. Et on arrive du coup au quatrième position. Tonight. Ouais, Side Story. Le patron, le papa, Steven Spielberg, qui confirme qu'il a sa place dans un top 5, même en étant là depuis peu. Bah oui, bah je pense que est-ce qu'on doit encore le, est-ce qu'on doit dire quelque chose.
On a tout dit dans l'épisode. Hein.
On a tout dit dans l'épisode.
Écoutez-les, ouais. Hein, s'il vous plaît.
Et d'ailleurs, non, voilà, une très très grande comédie musicale, alors qu'on avait des doutes hein, sur l'utilité voilà. De ce film aujourd'hui, étant donné que bah, y a déjà eu un film qui est sorti il y a 60 ans, donc pourquoi refaire la même chose. Eh bah, ben si. Pourquoi le refaire ? Bah parce que simplement Steven Spielberg
il réactualise c'est le patron. Complètement.
Il réactualise et puis surtout vous allez bouffer de la mise en scène au taquet là-dedans. Alors il était ex-aequo, il est ex-aequo en quatrième position avec un autre film, West Side Story. Un film qu'on n'a pas fait, ah oui, a fait Tabea, mais qui nous a chamboulé aussi, qui a valu un Oscar de la meilleure interprétation à son acteur pour les Oscars de cette année. The Father.
Ouais.
The Father avec Anthony Hopkins qui a décroché l'Oscar du meilleur acteur hein, pour ce rôle de personne atteinte d'Alzheimer. Un film de Florian Zeller. Florian Zeller qui semble avoir emprunté la voie du succès. Hein. Là pour lui,
il a adapté sa propre pièce qui était déjà un succès.
Voilà, une pièce qu'il avait lui-même écrite et qu'il a adaptée. Après, on n'est jamais mieux servi que par soi.
Bientôt ouais. Le jeu vidéo.
Ouais, je crois que c'est en plus,
par Florian Zeller.
C'est une pièce qui avait fait le tour du monde. Quoi.
Ouais, ouais. C'est un succès énorme.
Et c'est surtout un bijou de mise en scène.
Exactement. Ce que j'allais dire, ce qui est bien, c'est qu'il est ex-aequo avec Spielberg qui maîtrise totalement le. La grammaire cinématographique, et je trouve que dans ce film-là, bah, c'est pareil. Quoi. Il est capable de jouer avec ce changement d'ambiance et de juste avec un plan qui ne va pas noter. Tout d'un coup, hop, on a changé de. On sent qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a changé d'environnement, et c'est toujours très discret, tout en étant très pertinent.
C'est incroyable,
quoi.
Je trouve.
Le décor aussi.
Ouais, le décor a son importance.
Et avec une scène de fin déchirante qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps.
Ah, bah j'ai pleuré moi aussi à la fin.
Et même encore plus loin, un très beau même plan de fin. Je ne sais pas si vous souvenez
de. Oui, je me rappelle.
Et une interprétation
du tonnerre. Il est trop fort.
Il n'y a pas beaucoup, d'acteurs, pas beaucoup de personnages dans ce film. Ils sont tous au cordeau. Quoi. C'est...
J'avoue, ouais, il est vraiment touchant, Hopkins, dans ce film. À tous les niveaux, en tant que personnage et en tant qu'acteur, en fait. De se dire que. Ouais, je sais pas, moi, il m'a vraiment.
C'est vraiment un super film. Alors après, est-ce que c'est un film à revoir ?
Non.
Ça, je ne sais pas.
Enfin,
pourquoi
c'est que
parce
le problème,
c'est
qu'il y a un côté un peu mélo quand même. Quoi. C'est le film sur Alzheimer et qui te fait vivre ça, donc t'as pas forcément envie de le revivre.
Je le reverrai bien.
Je sais pas, c'est très puissant. Tu vois, c'est un film qui m'a rappelé Steel Alice avec Julianne Moore, qui traite à peu près du même sujet d'une manière différente, mais qui traite à peu près du même sujet de la maladie, de la mémoire, de la famille et tout, etc. Et c'est des films qui me marquent trop intensément pour que je les revoie en fait. Donc peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais en tout cas c'est pas sur ma liste des films à revoir, mais j'en garde un souvenir de cinéma incroyable, parce que oui, une mise en scène époustouflante, voilà. Après tu sens que c'est un film, tu sens vraiment que c'est un film de pièce de théâtre en fait, c'est parce que le lieu est unique. Donc j'ai hâte de voir aussi ce que Florian Zeller peut proposer.
Il fait le fils. Qui est aussi adapté d'une de ses pièces, et il y aura Hugh Jackman dedans.
Il fait toute la famille.
Ouais, c'est ça, parce que c'est une trilogie, je crois.
C'est le jeu de cette famille de l'univers. The Father, évidemment, qu'on vous recommande grandement. Hein, on arrive dans le trio de tête.
Non.
Déjà.
Le podium.
Et oui, en troisième position, les copains. Eh ben, c'est un film qui a ouvert la saison, tout simplement.
Dune.
Dune de Denis Villeneuve qui débarque là en troisième position, et j'ai envie de dire bah, c'est plutôt normal qu'il ait sa place dans le top, étant donné que on vous en a parlé longuement de Dune et qu'on avait adoré Dune comme beaucoup de gens autour de nous, même des gens qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait un livre qui s'appelait Dune, qu'il y avait un film qui s'appelait Dune, et qui ont découvert Dune avec l'œuvre de Denis Villeneuve et qui ont adoré. C'est un film, c'est un super film, moi, que j'ai vu deux fois au cinéma.
Ah, je veux trop le revoir.
Je l'ai vu deux fois au cinéma parce que mieux vaut deux fois d'une.
Oh
humour toujours. Hein.
Non, mais ça, c'est vrai que c'est le genre de film grand spectacle qu'on a envie de revoir et on a trop hâte de voir la suite.
Et c'est encore meilleur la deuxième fois. C'est vraiment ce genre de film où quand tu vas le voir une deuxième fois, tu te dis ben, c'est trop cool parce que j'ai pris la surprise, j'ai pris le grand spectacle dans la gueule la première fois. J'aurais pas ça, mais par contre, j'aurais un truc en plus, c'est que je sais ce qui va se passer. Donc du coup, mon œil peut s'attarder sur les détails, peut essayer d'aller capter les petits trucs que j'ai pas cernés la première fois. Et donc,
parce que c'est dense quand même.
Ouais, et puis le film, tu le vois pas passer, quoi. Il dure 2h30 et pourtant, quoi. Arrakis, la grandeur d'Arrakis, Zendaya, Chalamet. Bref, depuis le 9, tout va bien, quoi. C'était assez incroyable comme film. Et toi, tu l'as mis en top 1 égalité aussi.
Yes. Et d'ailleurs, j'ai lu que après Dune 2, Denis Villeneuve allait adapter une autre œuvre de SF, voilà, qui est apparemment connue. Alors que pour le coup, je ne connais pas du tout.
C'est l'auteur de 2001. L'Odyssée de l'espace.
Ah oui, ouais. Arthur C. Clarke.
Voilà, et c'est des humains qui vont à la rencontre d'un objet cylindrique énorme dans le système solaire, et à l'intérieur, il y a tout un monde, une ville et tout.
Une voilà. Douille de l'espace.
C'est vraiment une douille de l'espace.
C'est vraiment surtout qu'à Villeneuve, les galets, quoi. Enfin, les trucs,
oui, il adore
ça. Les ovoïdes.
Les graviers, voilà. L'adorent.
Donc, du coup, ça a l'air fort cool.
Il est parti pour de la SF pendant 10 ans, lui.
Ah, c'est ancien, c'est
là, il a montré qu'il savait faire. Je pense que son téléphone va beaucoup sonner. Numéro 2, déjà. Attention, on rentre dans le lourd, là. Un film que j'ai pas vu, personnellement. Mais qui a été beaucoup apprécié, et on en a beaucoup parlé dans l'émission, dans des épisodes comme ça, mais c'était un nom qui revenait souvent. Un nom, d'ailleurs, un prénom qui est plus utilisé aujourd'hui. Hein.
Oh, qui n'est plus utilisé.
C'est aussi une marque.
Je sais ce que tu vas dire,
dessert,
hein. Ça me met en joie.
Une petite âne. C'est ça que ça veut dire,
c'est Annette.
Une petite
âne.
Baby Annette. Léos Carax.
Et il n'est pas premier. Comment ça?
Parce qu'il y a mieux.
Les coupables sont Johanna, Clémence, Kevin, les quatre
les
colocs.
Coupables.
C'est vous qui avez mis Annette dans ce top.
Oui.
Et du coup, s'il se retrouve là, c'est que vous l'avez très très bien classé.
Ouais.
Il y a quand même deux comédies musicales dans le top.
Et c'est ce que je me disais, c'est fou.
C'est dingue. Alors que
pour nous deux, c'est fou.
Alors qu'on n'aime pas ça.
Non, mais c'est ça, Kevin, toi, quand même, tu l'as mis en top 1, Annette.
Ouais,
alors que tu
c'est le
pas
film qui m'a
musicale.
Le plus touché cette année, clairement. Et je n'aime pas les comédies musicales, normalement. Certains, ça me saoulait à me faire sortir, mais je sais pas, je trouve que le film, il y a un souffle, ça raconte quelque chose qui est tellement puissant, en fait, et qui y a une, c'est à fleur de peau tout le temps, en fait. Je sais pas, ça m'a bouleversé, Annette.
Écoute,
je rejoins. En mise en scène, je trouve que c'est exceptionnel.
C'est ce que j'avais... Et les chansons sont extraordinaires.
C'est ça, il y a un parti pris de mise en scène dont on découvre qu'il a un parti pris de mise en scène que très tard dans le film, et c'est génial.
Il y a un parti pris de mise en scène qui a un parti pris de mise en scène.
En fait, c'est un parti pris de mise en scène, et tu découvres dans une séquence qui arrive à la fin, ouais, la dernière séquence du film, tu découvres qu'au fait, c'était un parti pris de mise en scène.
Voilà, tu me hype.
Et du coup, c'est complètement dingue, c'est la scène finale, ouais, qui te met une grosse claque.
Tu me hype. Après, le seul problème de ce film, c'est qu'il est sorti en plein été. Moi, j'étais à Marseille, en train de me
excuse-le, excuse-le.
Pardon.
Au milieu des cigales.
J'avais autre chose à faire qu'aller au cinéma, si vous voyez ce que je veux dire.
D'accord.
Bien sûr, un petit pastis au para, un petit rosé piscine. Évidemment, ça s'enjaille.
Tu es allé voir Jean-Mi.
Jean-Mi à Perpignan, c'est pas porte d'à côté, mon coco.
C'est vrai que la scène finale de Annette, elle te retourne au moins 4 taloches dans la gueule d'affilée. Genre, elle est d'une violence, d'une émotion.
Et moi, je me suis pris une claque à Adam Driver aussi, parce que pour moi, c'était un bon acteur, mais je me suis jamais dit, ouais, Adam Driver, il est ouf. Dans ce film, il est incroyable, vraiment.
Il a au moins 2 scènes à Oscar.
Ouais.
Mais je pensais pas Léos Carax possible de ça.
Ben alors le truc, c'est que c'est pas écrit par lui. Parce que moi, Léos Carax, j'ai vu que Holly Motors et du coup son court-métrage qu'on a vu là dans Tokyo.
Qui m'a achevé.
C'est espérant quand même. Je suis pas ultra fan, mais là en fait, le fait que ça soit un scénario des Sparks, donc ceux qui ont écrit toute la musique du film, je sais pas, je trouve que y a une synergie parfaite entre la musique et sa mise en scène, et ça marche à fond.
Donc c'était prévu pour être un film, c'est pas une comédie musicale qui a été adaptée.
Non, je crois que c'était prévu pour être un film depuis le début, ouais.
Mais c'est vrai que eux, leur scénario est assez accessible et assez classique, et c'est ce qui lui manque à lui souvent, parce que lui, c'est plus la mise en scène qui souvent te met sur le cul. Donc là, c'est vrai que ça s'agence très bien ensemble.
Ouais, ça a été la nouvelle vague, Carax, en fait, de base. J'avais regardé d'un œil.
Boy Meets Girl.
Boy Meets Girl. J'ai l'impression de voir du Romer, ça m'a.
Angèle.
Et là, ça marche.
Il est en train de faire un AVC avec
un traumatisme
interne. On va passer
au top 1.
Au numéro uno.
Ah, je vois qui c'est, le numéro
uno. Et pour ça,
elle
je vais
porte
demander
un prénom aussi.
Je vais demander à
un prénom.
Pour...
Wendy,
incroyable. Wendy qui finit.
Oh.
Et William est dégoûté.
Je te jure,
ce gros film de merde là.
Non, j'ai bien aimé, mais je trouve qu'il mérite pas.
Alors, je fais une parenthèse, je ne vois même pas ce que c'est.
Ah oui,
c'est normal, personne.
Est-ce que t'avais vu Les Bêtes du Sud Sauvage ou pas?
Non.
C'est le réalisateur de ça qui fait une adaptation de Peter Pan, mais le personnage principal c'est Wendy, c'est pas Peter.
C'est Romain qui a dû m'en parler récemment.
Ouais,
pardon. Ouais.
Je crois que tu m'écoutes vachement.
Non, mais c'est normal que tu vois pas, parce que en fait, on se l'était dit à notre épisode. Déjà, il a pas été très bien vendu.
Non.
L'affiche qu'on a pu voir un peu si tu passais près d'un UGC, elle disait pas du tout ce qu'était le film. Elle laissait penser à un film pour enfants, vraiment.
Okay.
Et
la promo
que
était
ça
très mauvaise.
C'était une affiche de TTV, hein. Franchement,
et
ça fait de la peine.
Et il n'était pas beaucoup distribué.
Voilà,
plus,
ça,
hein.
Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de distribution en salle en plus.
Vraiment pas, hein, parce que moi j'ai dû le voir à la deuxième semaine d'exploitation et j'ai dû aller dans un petit cinéma de quartier pour vous dire que UGC avait déjà foutu ça à la porte. Donc, ouais. Donc voilà quoi. Mais oui, Wendy qui se retrouve du coup numéro uno. Pour moi, ça fait énormément sens parce que c'est mon film préféré
pareil.
De l'année.
Pareil.
C'est le film qui m'a le plus retourné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film où j'ai pleuré, mais à chaudes larmes.
Ouais, pareil.
Mais vraiment, c'est le genre de truc que tu ne contrôles pas parce que la force des émotions est là. C'est-à-dire qu'en fait, un écran plat réussit à t'envoyer en voyage à l'intérieur de toi-même. Quoi. C'est... non, mais je veux dire, cette puissance-là qu'a le cinéma, c'est ce que je recherche tout le temps. Quoi. Peu importe l'émotion, après, j'ai envie de te dire, mais j'ai envie de ressentir quelque chose. Et là, j'étais vraiment dans les extrêmes des émotions, quoi, et pas parce que c'était triste, non, parce que c'était beau.
Ouais.
Et évidemment, ça fait énormément écho aussi à notre vie personnelle à chacun. Mais je me suis retrouvé dans ce film et j'ai trouvé, notre match retour, on parle très bien, mais j'ai trouvé le film d'une puissance inexplicable un peu. C'est quelque chose de transcendantal.
Pour moi, c'est touché par la grâce, vraiment, comme film.
Ouais. C'est vraiment le top musical aussi.
Ouais, et du coup, qui est beaucoup ressorti, hein, que ce soit Kevin qui l'a mis en numéro 2, par exemple, ou Clémence qui l'a mis en numéro 2. Johanna premier, Clément premier, Wendy, moi j'étais premier aussi. Wendy est beaucoup ressorti dans notre top 5. Et c'est plutôt surprenant de voir que c'est ce petit film de Beth Zetlin qui a passé une tête comme ça et qui a vite disparu des écrans, bah, qui remporte la palme fête à Béa, quoi.
Bah moi, ces deux films, Les Bêtes du Sud et celui-là, ils sont dans mon top film ever. Hein. C'est, ce réalisateur, je trouve que, je sais pas, il a un truc qui me bouleverse à chaque fois et je trouve que c'est un des gars les plus intéressants à suivre là dans les prochaines années. Et je pense que Wendy, ça a pas de ouf marché. J'espère qu'il va pouvoir continuer à faire des films parce que ouais, des films comme ça, mais j'en veux tous les jours. Ouais. Quoi. C'est
Et dans Wendy, c'est surtout un casting incroyable. Quoi.
Ouais. Ouais.
Casting avec des gamins qui sont capables d'une telle justesse d'interprétation, c'est...
Et puis comment il relie au sens de relire Peter Pan, quoi. C'est fou cette réactualisation qui fait toutes les thématiques, il s'en empare et en même temps c'est moderne. La photo, ben, bon, ça voilà. J'ai rien à dire d'autre.
Et c'était marrant parce que nous on l'a vu Clément avec une pote qui joue Wendy au théâtre, enfin en comédie musicale au théâtre, et qui a, enfin elle a fait les chorés sur le spectacle et elle double Wendy. Et du coup elle était curieuse de voir le film avec nous et la moitié du film on était en chiale tous les trois. Et à la fin, elle a dit c'est la meilleure adaptation de Peter Pan que j'ai vue. Il était hyper hypé.
Waouh. Ouais, c'était en tout cas, je retiens un très bon souvenir de film, comme je retiens un très bon souvenir d'épisode. C'était déjà, on a rigolé, hein, forcément, parce qu'on rigole toujours, même si le film en soi n'est pas forcément drôle. Mais on s'est bien marré. Et puis, je suis très, très content d'avoir découvert ce film un peu grâce à cette émission, parce que je suis sûr et certain que je ne serais pas allé le voir au cinéma si on n'avait pas fait Feta Béa, quoi. Donc pour ça voilà, chapeau Wendy.
Et il est sur OCS en ce moment.
Il est sur OCS, ouais. Vous avez l'info si vous voulez voir ce film et que vous l'avez raté au cinéma, ce qui serait pas étonnant vu qu'il est resté très peu de temps. OCS, let's go voir Wendy de Beth Zetlin et puis vous nous en direz des nouvelles, j'espère.
Et moi je crois que Wendy c'est la meilleure BA qu'on a pu faire cette
je
année. Pour
aussi,
moi
ouais,
c'est la meilleure.
Ah bah voilà, une bonne question. Quelle est pour vous la meilleure BA?
Ouais, Wendy. Wendy. Parce que vraiment, en fait, déjà, c'était absolument pas une douille parce que la BA était aussi bien que le film. Et la BA, déjà, m'émouvait beaucoup. Enfin, elle avait une vraie force.
Je crois que je suis d'accord avec toi aussi.
Pareil.
Je crois que je suis d'accord avec toi que c'est la meilleure BA. Je l'ai fait un peu toute, là, tu vois.
Il y avait elle et j'avais bien aimé celle de la nuée aussi.
Oui.
Ah, c'est vrai qu'il y avait la nuée.
Oui, moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est la nuée, personnellement.
La nuée était une BA pas mal. C'est vrai.
Mais c'était quoi ton top 1, William?
West Side Story, je crois.
Okay.
Yes.
Justement parce que j'avais été très très réticent à l'idée d'un Spielberg qui refaisait un West Side Story et j'étais vraiment très méfiant. Et en fait, je me suis dit, il a réussi à faire mieux que l'original. Donc
voilà. On pense aussi à d'autres films comme Nomadland, qui sont évidemment
Que j'ai mis en top 2, je crois.
L'événement, faut dire un mot dessus quand même.
Ouais. L'événement aussi, oui, qui
est une grosse claquasse.
Ouais.
Ouais, du coup, que vous conseillez. Ça doit être dur,
tu
parce que moi j'ai vu la bande annonce.
Non, mais
ça a l'air
très
dur.
Envie d'aller le voir.
Ça a l'air dur quand même.
C'est dur.
C'est pas une franche rigolade, mais c'est l'actrice, elle va être au César.
Oui.
Elle va être nommée.
C'est très très fort.
Et je voudrais juste en profiter parce que moi j'ai vu un film cette année. Alors je crois que je l'avais mis en top 5 dans mes choix. C'était un film français qui s'appelait Le Dernier Voyage.
Il est trop
bien.
Il est trop bien.
Ah, bah vous l'avez vu.
Film de SF, ouais.
Voilà, parce qu'avec une super DA, une super photo, une super réalisation.
Ouais. Et il est parti, il avait fait un court métrage de ça Et grâce au court-métrage, il a réussi à en faire le long.
C'est un premier long français de SF post-apocalyptique. C'est très ambitieux. Ça réussit pas tout, mais voilà, au moins, il y a une énergie de ouf. Et la photo est très, très belle.
Un petit parcours à la nuit d'Amcom, quoi.
Et moi, j'avais mis La Nuit des Rois, qui est le film qui représentait la Côte d'Ivoire aux Oscars, qui était dans la shortlist des 15, mais pas dans la finale. Enfin, je sais pas s'il y a la finale.
Non, il
en ce moment, oui. Enfin, bref. Et très beau film aussi, qui est une... Enfin... qui est basé un peu sur les Mille et une Nuits, sauf que ça se passe à La Maca, qui est la prison qui se trouve dans la capitale, qui est un peu isolée de la capitale parce qu'elle est au milieu d'une forêt qui s'appelle la forêt du Banco. Et en gros, c'est un jeune délinquant qui arrive dans cette prison et qui est désigné par un gars un peu à la Mad Max, là, avec son truc à oxygène, qui le désigne comme le c'est pas le narrateur, je sais plus comment il dit, le conteur d'histoire. Et en gros, il doit raconter des histoires toute la nuit, sinon il meurt, en gros. Sinon il se fait tuer par les autres prisonniers. Parce qu'il y a la lune rouge qui arrive, donc tu comprends pas trop, t'es en même temps que ce prisonnier, donc tu sais pas ce qui se passe. Et ils arrêtent pas de parler d'un événement qui est la nuit rouge. Et donc pendant cette nuit rouge, il doit raconter des histoires toute la nuit et ne jamais s'arrêter. Et sous couvert de ça, il y a un peu une guéguerre entre les prisonniers pour savoir qui va être le patron de la prison.
Donc tu recommandes?
Ouf, c'est ouais, ça, c'est ouais, complètement. Il est vraiment
très poétique.
Ouais.
Dans ton top aussi, Martin, toi, t'avais mis Le Sommet des Dieux.
Ouais.
Oui, film d'animation.
Ah, film d'animation.
Oui,
super. C'est très beau ça.
Que j'ai vu passer à mon cinéma de quartier, mais je me suis pas encore arrêté.
C'est sorti assez récemment, il y a deux mois, un truc comme ça, et je suis allé voir sans trop savoir ce que c'était. Et belle surprise, franchement.
Et c'est adapté de la BD de Taniguchi paru chez Casterman.
Exactement.
Certain.
Ah ben voilà.
Qui est une grande BD.
Ok. Ouais. Non, très beau film.
Alors voilà, pour résumer vite fait notre top, en partant du plus bas jusqu'au plus top, on avait donc Last Night in Soho en 5e position, hein, qu'on aurait adoré faire dans l'émission, mais malheureusement, That's Life. Il est encore peut-être au cinéma, donc je sais pas si à l'heure où sort l'émission, s'il y est encore. En 4e position, Ex Aequo, West Side Story et The Father, hein, deux bijoux de mise en scène qu'on vous conseille évidemment, dont un que vous pouvez aller voir au cinéma car il est sorti la semaine dernière, quoi. Et en troisième position, Dune. Hein, c'est le gars sûr, quoi. Hein, c'est Denis Villeneuve, quoi. C'est la SF, quoi.
Voilà,
c'est une grande œuvre de science-fiction dont on attend la suite rapidement.
Annette.
En numéro 2, Annette, une autre comédie musicale. Donc, oui, deux comédies musicales dans le top 5 de Fetabea, c'est possible, hein, comme quoi. Deux Léos Carax, qu'on vous conseille aussi, puis moi que j'ai très hâte d'aller voir aussi. Et le top numéro uno, Wendy, de Ben Zetlin, l'adaptation revisitée, une relecture de Peter Pan, plus sous l'angle de Wendy, un film bouleversant qu'on vous conseille, précipitez-vous, s'il y a un Blu-ray, un DVD, n'hésitez même pas, je vous le conseille personnellement, et vous aussi.
on vous le conseille personnellement.
Individuellement, chacun, on vous le conseille.
Je pense qu'on a fait le tour du bilan. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez des souhaits, peut-être des vœux pour l'année prochaine? Est-ce que vous avez des films?
On attend des films.
Oui.
Alors, quels seraient vos vœux en vue de... Bah, c'est ce qu'on fait, hein, on souhaite nos vœux pour la nouvelle année. Quels seraient vos vœux de cinéma pour l'émission, pour la semaine prochaine, l'année prochaine?
Que la Warner arrête de faire de la merde.
Il y a un vœu que tu as déjà exaucé, hein, c'est qu'on fera plus jamais de MCU. Moi,
j'avoue que c'est
bien. Ok, ce vœu, il est pour moi, c'est cadeau.
Merci.
Martin, un film que tu attends, toi, l'année prochaine?
Tout début janvier, on en a parlé tout à l'heure, évidemment. Le Paul Thomas Anderson.
Eh oui.
Licorice Pizza, très chaud, évidemment. Je te dis mes quatre films vite fait. Hein,
Oui. Okay. Qu'est-ce que t'attends le plus, quoi?
Non, il y en a un que je vous dis pas parce que je pense qu'il va être dans plein de gens. Non, il y en a un, en préparant l'émission, j'avais un peu oublié, mais il y a un film qui s'appelle The Northman.
Oui, c'est le prochain Robert Eggers.
Voilà, Robert Eggers qui avait fait The Lighthouse et The Witch. Et j'ai vu le casting, je vous le dis parce qu'il est assez ouf. Alexander Skarsgård, j'ai du mal à le prononcer. Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Bjork, Anya Taylor-Joy.
Oh.
Mais ça
hype.
Bon. Ouais, ça sent le film Mindfuck. Hein. Au vu des acteurs, j'ai l'impression.
Au vu du réel, surtout.
Il est plus barré.
Oui, mais quand tu
vois
les
acteurs. C'est marrant, il reprend des acteurs avec qui il a déjà tourné, comme Willem Dafoe et Anya Taylor-Joy.
Ouais. Il est peut-être tombé en amour.
Regarde-moi bien dans les yeux. Dis-moi que tu m'aimes pas.
Après, il y a un autre film que j'attends énormément, mais je pense que d'autres personnes vont le citer ici. Donc...
Ok, on va voir ça tout de suite. Kevin, toi, des films que t'attends le plus, quels sont tes vœux?
Moi, j'attends aussi beaucoup The Northman, parce que je suis assez fan de Eggers. Moi, j'attends beaucoup le Del Toro, parce que je suis un gros fan de notre ami Guillermo. Moi, j'entends vraiment pas beaucoup de bonnes choses sur son film, donc j'ai un peu peur.
Nightmare Alley, ouais.
Nightmare Alley, mais je suis assez happé et j'attends aussi beaucoup. Mais je crois qu'en fait, il est un peu limite entre 2021 et 2022, mais j'attends beaucoup Belle de Osoda.
Il sort là.
Il sort là à la fin du mois.
Hein. Il sort pour Noël.
Donc il est à cheval. Donc, ouais. Donc ouais, j'attends beaucoup. Je suis un gros fan de Osoda.
Donc bah déjà, je peux te rassurer, hein, y a de fortes chances, voire 100% de chances que Guillermo soit au programme.
Guillermo !
William, des vœux pour l'année ?
Et bah ouais, j'espère gagner le titre l'année prochaine. Une fois.
Ça dépend que de toi.
Non, mais des choses réalistes.
Ça, oui, bien, ça dépend que de toi, parce que tu nous fais culpabiliser, mais non.
Non, c'est vrai. Après, pour les films que j'attends l'année prochaine, il y en a... Bon, déjà, tous ceux que vous avez cités, c'est déjà des films que j'attends avec impatience. Et sinon, moi, je suis assez curieux du Batman de Reeves.
On est d'accord.
Et aussi y a, je suis un gros fan de Cyrano de Bergerac. Il y a une adaptation de Cyrano qui sort avec Peter Dinklage.
Yes. Voilà.
D'accord.
On aime ce choix.
Ouais.
Intéressant.
De Joe White, donc voilà.
Clémence, tes vœux filmiques 2022.
Écoute, en fait, j'allais dire pareil. J'attends beaucoup le The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Et mon vœu est qu'il soit très bien parce que pour l'instant, c'est une bande-annonce que j'ai regardée au moins 4 ou 5 fois, que j'ai eu immensément de plaisir à revoir. Donc c'est rare que ça me fasse ça. Donc je suis hypée. Et j'adore Robert.
Il y a de très fortes chances qu'on fasse The Batman.
Ah, et une deuxième bande-annonce qui m'a beaucoup hypée, et donc j'attends beaucoup le film, c'est Buzz Lightyear.
Ah oui, le film ouais. Buzz Lightyear.
C'est marrant, Clément, je pensais que t'allais parler de Scream, toi qui es une grosse fan
oui,
de la franchise.
Oui, mais alors c'est une évidence, en
oui,
fait.
Oui, c'est ce qu'on allait dire. Scream, c'est pas la peine de
dire. Par contre, mon vœu, c'est qu'on fasse Scream au programme de Feta Bea, parce que...
Inch'Allah.
Allez, vœu accepté. Hein. C'est bon, c'est cadeau.
On va distribuer les cadeaux. Yes. Distribuer les cadeaux avant Noël.
Voilà,
Noël.
Voilà, le programme est déjà prêt, de toute façon. Clément, bon, on a dit The Batman. Hein.
Oui, donc je vais pas redire, c'est le film que j'attends le plus, mais c'est même pas une attente, là, je sais pas, il y a pas de mots. Je l'attends trop. Bref, en film indé, ce serait PTA, le Licorice Pizza, là, le Paul Thomas Anderson, et c'est bien parce que ça arrive bientôt. Et un film que j'attends beaucoup, c'est Nitram. C'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Justin Kurzel, qui avait fait Assassin's Creed, oui, mais qui avait fait le Macbeth avec Cotillard et Fassbender, que je trouve incroyable comme film. Et là, Nitram, ça s'annonce ultra glauque. L'acteur a eu le prix d'interprétation à Cannes, Caleb Landry Jones, et j'attends trop ce film. Ouais, j'adore ce réal, je suis un peu seul sur le coup, mais j'y crois.
Ah mais moi j'ai adoré son Macbeth et d'ailleurs je rebondis dans les films que j'attends, et ben il y a le Macbeth de Joel Cohen qui sort tout début janvier avec Frances McDormand dans Lady Macbeth et Denzel Washington en Macbeth.
Ooh, what?
Et je suis totalement
hypée. Ça sort sur Apple,
ouais, malheureusement. Parce que très bon choix d'acteurs et de les avoir d'avoir pris un couple Macbeth plus âgé, je trouve ça hyper intéressant dans la thématique. Et sinon, à part ça, bah, évidemment, le PTA, The Batman et Cyrano comme William, parce qu'on a une passion Cyrano en commun.
C'est beau. Et toi, Johan ?
Bah, du coup, vous avez dit tous les films que j'attendais. Alors du coup, je vais troller. Moi, je veux voir Doctor Strange 2. Je veux qu'on le fasse dans Feta Bea.
Alors, on va débrancher.
Sors d'ici, Prometheus.
On va débrancher
tu
son
feras
micro.
Un épisode
alors, tu peux
tout
t'en
seul.
Aller. juste là-bas.
Allez, t'as dit oui à Clémence. Moi aussi, je veux mon cadeau.
Bon, vous avez dit beaucoup de films que j'attends aussi. Pitié, The Batman. Donc, je vais plus me maxer sur le grand public. Moi, ce que j'attends le plus, c'est pratiquement dans un an. Et ça fait plusieurs années qu'on l'attend.
Ouais, bah
oui, évidemment.
C'est quand même hein, le James Cameron, enfin, qui va nous revenir, Inch'Allah, avec un Avatar numéro 2, s'il n'est pas repoussé. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite des aventures de Sully, Jack, je ne sais plus comment il s'appelle, et compagnie. Bref, revoir Pandora... Et puis surtout voir ce qu'il nous propose, hein, le James Cameron, parce qu'on sait très bien qu'à chacun de ses films, c'est un petit tournant technique qui se passe dans l'histoire du cinéma, hein, clairement. Hein. Il n'est pas là pour rien. Et aussi très envie du coup de voir le prochain Spider-Man animation.
Oui, c'est vrai.
Ouais,
nous a été teasé il n'y a pas longtemps et qui a l'air de vendre du rêve.
Et personne n'en a parlé, mais il y a aussi le The Green Knight, le prochain
sur Amazon.
Ah ouais, mais l'histoire est compliquée aussi parce qu'il est sorti cette année, mais
il doit sortir en France sur Amazon.
Voilà, on peut déjà le voir de manière.
Fnac du métro. Mais aussi, c'est vrai que moi j'y pense. Après, on n'a pas encore de date officielle, mais il y a aussi le dernier Makoto Shinkai qui sort normalement.
Oui, ça vient d'être. Oui, il vient d'avoir des éléments sur l'histoire.
De, des enfants du temps et de. Non, pas des enfants
Your
du
name.
Temps.
Et Your Name.
Your Name. Comment s'appelle l'autre le deuxième ?
Les enfants de la pluie.
Les enfants de la pluie, pardon. Et qui, apparemment, est un gros récit fantastique. L'affiche est magnifique. C'est une porte.
C'est une fameuse porte qu'on voit
dans des ruines. Enfin, ça a l'air vachement bien.
Et peut-être en Smalik.
Peut-être
là, c'est pour nous trois.
La vie de Jésus.
La ville de, il a tourné un truc sur la vie de Jésus. Ouais.
Écoutez,
avec Mathias Chonard. Ils font ça.
Ok, mais ça on va le faire juste pour énerver Clémence.
On connaît Ferrance Malick et ça peut mettre 3 ans le montage. Hein, donc voilà. Mais ça peut sortir aussi en 2022.
Bah écoutez, je prends note de tous vos voeux. Je sais déjà qu'il y en a qui sont actés. Hein. Et puis, on verra ça nous l'année prochaine. Hein, voilà, autour d'une bonne BA à l'ancienne. Bah, pas à l'ancienne du tout.
Ma bonne BA.
Non, mais ce serait bien, oui, qu'on aille explorer un peu le monde Japanimation qu'on n'a toujours pas fait. Donc
c'est marrant parce que l'année dernière, on avait dit qu'on attendait de pouvoir faire la BA du Miyazaki en 3D et ça n'est jamais arrivé.
Finalement, il y a eu Covid.
C'est parce qu'on n'a pas envie de le voir.
Il est sur Netflix en ce moment.
Il est sorti sur
Mais en fait, ça donne pas envie.
Mais c'est pas un Miyazaki Hayao. Enfin, c'est pas un Miyazaki père, c'est un Miyazaki fils.
D'accord.
Le film.
Enfin voilà.
Est-ce que je peux dire juste quelques films qui vont sortir et qui me font très peur et que je veux pas qu'on fasse dans
Ah t'as Ah ouais,
t'as une liste inversée. Vas-y,
j'ai une liste inversée. La to-do list.
Alors,
une to-do list.
Alors moi je l'ai appelé la boue 2022.
Boue.
Boue, ouais. Alors déjà il y a Morbius, bien entendu.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu.
Non mais ça, ouais. mais pas la même.
Je préfère le dire. Je préfère le dire. Il y a le Moonfall de Roland Emmerich, bien entendu.
Ah attends, épisode dans l'espace, ça peut être intéressant.
Mais non.
Il a déjà fait 1000.
Jacky nous enlève Avengers pour faire ça.
Ah, moi,
il y a l'énième crachat au visage des joueurs de jeux vidéo Uncharted.
Oh oui. Ah ouais, c'est un affront.
Et bien entendu, Sonic 2.
Alors
non, moi je suis un peu hypé.
Non, j'aimerais bien le
faire.
Tu ne peux pas dire ça.
Si, je suis un peu hypé par Sonic 2 parce que le premier m'a fait quand même beaucoup rire. Tant c'était nul. Enfin, c'est un nanar, quoi. J'aime bien.
Il y a Tails et Knuckles.
Il y a Tails et Knuckles.
Avec Idris Elba qui fait la voix de Knuckles, moi j'y vais.
Et dans la BA, t'as Jim Carrey qui fait hé, tu as vu ma nouvelle moustache? Il m'a conquis.
Et j'ai vu qu'il allait avoir Minecraft le film.
What?
Oh putain.
Ouais.
Il voulait pas faire Monopoly aussi à une époque.
Il y a Tetris le film qui est prévu depuis longtemps d'ailleurs. C'est même pas une vanne.
Mmh. Voilà, là.
Juste après Trivial Poursuite, non ça.
Ok. Écoutez, on va voir si toutes ces douilles arriveront autour de nos micros. mais j'en doute un peu. Hein.
J'espère pas.
Peut-être Sonic 2 pour la blague. Bon, ben, je pense que c'est déjà la fin de nos tops. Vous retrouverez évidemment nos top douilles, nos top 5. On a le top douille et puis on a
top kiff,
top douille. Ouais, j'aime bien. Top kiff, top douille, vous les retrouverez sur nos réseaux. Hein, et puis on vous demandera aussi à vous. Bah, quel est votre top 5 de l'année et quel est votre flop 5 de l'année? Déjà, je voulais vous dire merci à vous tous autour de la table pour cette année.
Merci à toi,
Romain.
Année difficile pour plein de choses, mais franchement très enrichissante à faire avec vous. Donc, c'était très très cool. J'aime beaucoup. On passe de très bons moments quoi, à chaque fois. Et puis voilà, j'espère que les auditeurs, auditrices s'y retrouvent aussi. J'espère que vous aimez ce que vous entendez, ce qu'on vous propose. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Donc, n'hésitez pas à le partager, vous, sur vos réseaux, ou bien sur nos réseaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, retrouvez-nous encore et toujours sur toutes les plateformes d'écoute, quelles qu'elles soient, ou sur notre site internet, fetabea.fr. Encore un grand merci, les copains, pour cette année 2021.
Merci à vous tous.
Merci à toutes.
Et on se dit à l'année prochaine. Voilà, de très bonnes fêtes. Et des gros bisous.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Portez-vous bien.
Bisous. Quelle journée, mes aïeux.
Trois d'affilée.
Trois d'affilée.
Le doliprane de Johan m'a
soulevé. Désolé,
je me sens revivre.
Un peu en retard sur l'horaire.
Je suis vivant.